Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. This is the end. La fin de 20 ans de présence militaire en Afghanistan. Le tout dernier avion américain a quitté hier soir Kaboul sous les tirs de célébration des talibans. Moment historique, épilogue de la plus longue guerre menée par les États-Unis que l'on va vous faire vivre tout au long de cette matinale. Comment ça va ce matin, ma chère Ombline?
ça va bien, même si comme tous parents, la pression commence à monter à deux jours de la rentrée scolaire. Je regarde autour de la table. Oui, voilà.
Alors, pas de pression, hein,
pas de pression,
Anissa. Très contente.
Très bien. Oui, mais nos enfants, ils ont passé l'été à se coucher tard.
Ah oui, ça
voilà.
Alors, les soirées estivales en famille, avec les amis ou devant la télé ou sur le téléphone encore.
Alors, ça passe pendant les vacances, mais il est temps maintenant de reprendre les bonnes habitudes, les dents, pipi et early. Comment faire pour qu'il retrouve le rythme de l'année et que ce ne soit pas la bagarre le soir à la maison? J'ai hâte d'être mercredi. On entendra à 5h40 les bons conseils d'une médecin psychiatre spécialiste du sommeil.
Le sommeil, justement, le soleil, on y viendra dans un instant. Ouais. On peut facilement le perdre, le sommeil, quand on se lance dans des travaux, même avec un bon entrepreneur. Est-ce que ça sera fini à temps? Va-t-on rester dans le budget? Autant de questions que vous êtes nombreux à vous poser alors que les retards s'accumulent en ce moment sur les chantiers. La faute à une pénurie de matériaux de construction et à la flambée de leur prix. Du coup, les devis grimpent en flèche. On en parlera à 6h10 avec le président de la Fédération française du bâtiment.
Et puis, on va s'évader ce matin, Julien.
Tout d'abord avec le livre que va nous conseiller Nicolas Caro à 6h moins le quart, un polar poétique qui a enchanté notre spécialiste littérature. Et puis, on terminera avec votre partition, Omblin, une partition qui va électriser notre réveil.
Oui, s'il vous plaît, ils ont réussi à démocratiser le rock sudiste. 3 Texans, des guitares, des lunettes fumées et des barbes. ZZ Top dans la partition. La marque Gillette avait offert 1 million de dollars aux musiciens pour qu'ils se rasent dans une pub. Ah bah ça a toujours été non. Rendez-vous à 6h20.
On est plus ou moins rasé de près. Enfin, je parle pour moi. On est surtout prêt à démarrer avec pour commencer la météo.
Plus moins que plus, hein, pour vous, Julien, quand même.
Oui, c'est vrai.
Au niveau du rasage.
Bonjour, ma chère Anissa.
Bonjour. Bonjour. Un petit peu plus, ça vous l'avez évoqué, tiens, un petit peu plus de soleil aujourd'hui.
Oui, je vous avais promis une amélioration. Chouette. Ça y est, elle arrive. Alors attention, il va falloir être un petit peu patient quand même, parce que ce matin, nous avons encore une matinée très grise sur la moitié nord du pays. Donc si vous nous écoutez de la Bretagne au Pays de la Loire, de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, de la région parisienne jusqu'au Grand Est et même jusqu'en Auvergne ce matin, le ciel est très couvert, mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'au fil des heures, le soleil va s'imposer, les éclaircies seront encore plus généreuses qu'hier. Il n'y a finalement qu'en Alsace que les nuages s'accrochent encore un petit peu, avec même un risque d'averse. Dans le sud, c'est du grand et beau soleil avec encore un petit peu de mistral au bord de la Méditerranée. Les températures, il fait frais à Rodez, couvrez-vous, 8 degrés, 9 à Clermont-Ferrand, 11 pour Annecy, 13 à Bordeaux, 15 degrés à Brest et Lyon, 16 degrés ce matin pour Marseille et Paris et 19 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous retrouve dans une petite demi-heure. Place à l'info de ce mardi 31 août. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Des coups de feu dans la nuit de Kaboul pour célébrer le départ des Américains d'Afghanistan. Les talibans fêtent leur victoire, mais de nombreux Afghans redoutent maintenant les représailles du régime islamique. Marseille en grand, voilà comment Emmanuel Macron qualifie le plan d'investissement et de rénovation qu'il doit annoncer demain pour la deuxième ville de France. Annonce très attendue sur place. Et puis Mbappé au Real, la piste se refroidit. Les négociations entre le PSG et Madrid ont été suspendues. Le champion du monde pourrait bien finalement rester dans la capitale. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. Avec 24 heures d'avance, les États-Unis ont donc définitivement quitté l'Afghanistan, mettant un terme à 20 ans de présence dans le pays et laissant le champ libre aux talibans. Le dernier avion militaire, un C-17, a décollé donc de l'aéroport de Kaboul juste avant minuit, heure locale. Un départ qui marque la victoire finale des fondamentalistes. Margot Ben, vous êtes sur place pour Europe 1. Et vous avez vécu, Margot, ces dernières heures que l'on peut presque qualifier d'historiques.
Oui, en effet, aux alentours d'une heure du matin, ici à Kaboul, on entendait encore le bourdonnement des derniers avions américains quittant l'Afghanistan. Et puis soudain, on a entendu des rafales de tirs d'armes automatiques. C'était des talibans dans la rue qui célébraient leur victoire, qui célébraient le départ de leur ennemi et leur prise effective de toute la capitale, puisque l'aéroport était le seul endroit qu'ils ne contrôlaient pas encore à Kaboul. Les rues étaient assez désertes, puisque c'était le milieu de la nuit et que les talibans qui tiraient étaient postés dans des endroits spécifiques de la ville. En revanche, au checkpoint auquel j'ai pu me rendre, les talibans se félicitaient de leur victoire et disaient « les étrangers sont partis ».
Depuis le 14 août, l'armée américaine assure avoir évacué 123 000 civils d'Afghanistan, mais le Pentagone reconnaît n'avoir pas pu faire sortir autant de personnes que voulu.
De fait, beaucoup d'Afghans menacés par le nouveau pouvoir en place vont devoir vivre avec la crainte de représailles d'un régime violent. C'est le cas de cet habitant de Kaboul que Zoé Pallier a pu joindre, mais qui tient à garder l'anonymat.
Il n'y a plus aucun étranger dans les rues, plus aucune personne qui travaillait pour le gouvernement afghan ou pour des organisations internationales. Eux ont trop peur de sortir. Moi, ça fait plus d'une semaine que je vis caché. On change de maison régulièrement pour ne pas se faire repérer. Les talibans n'ont pas encore montré toute leur cruauté parce que jusqu'ici, ils se sentaient surveillés par la communauté internationale. Je suis très inquiet maintenant que toutes les organisations et les troupes étrangères quittent l'Afghanistan. Dans les provinces là où il n'y avait plus de troupes, les talibans battent et tuent les gens. Pas une heure ne passe sans que je me demande comment m'échapper. Ma fille fait des crises de panique, ça va devenir très compliqué de continuer à se cacher comme ça.
Un témoignage à Kaboul recueilli par Zoé Pallier.
Sur le front de l'épidémie de Covid, maintenant ce nouveau message d'alerte de l'OMS.
L'Organisation mondiale de la santé qui redoute que le virus ne fasse 236 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le 1er décembre si le rythme de la vaccination n'augmente pas. En France, le chiffre des hospitalisations en soins critiques a connu un léger rebond ces dernières 24 heures, mais la tendance à la baisse des contaminations se confirme. 43 500 000 personnes sont désormais totalement vaccinées en France.
Marseille, dans l'attente de la visite d'Emmanuel Macron, le président de la République doit y annoncer demain un vaste plan de rénovation et d'investissement pour la ville.
On parle d'une enveloppe globale de plusieurs milliards d'euros. Plan baptisé Marseille en grand et effectivement très attendu par les élus et les acteurs locaux. Stéphane Burgat, notamment sur les questions de sécurité.
Oui, il y a un sentiment d'urgence, vraiment, dans les secteurs les plus pauvres de la ville, alerte Salim Grapsi, le président du syndicat des quartiers populaires de Marseille.
Il n'y a rien de pire que le désespoir. Là, on est à la croisée des chemins. C'est le dernier coup, j'allais dire le dernier essai, qui permettra de ramener tout un pan de la population issue des quartiers nord vers une construction positive de notre société de demain.
Alors attention à ce que ce déplacement ne soit pas un nouveau rendez-vous manqué. Et il y a une source d'espoir certaine chez les politiques, mais beaucoup de prudence aussi. Exemple auprès du maire LR du 5e secteur, Lionel Royer-Perrault.
Il faut s'assurer que ce ne soit pas un énième plan sans qu'il ne soit suivi de réels effets dans la durée. Nous avons déjà eu des gouvernements qui ont annoncé des milliards d'euros et au final, très peu d'argent est venu dans la corbeille.
Voilà, et une forte attente aussi sur le volet de la sécurité de la part notamment de Rudy Mana, le représentant du syndicat de police Alliance.
Si aujourd'hui le président de la République descend à Marseille et il annonce rien sur le thème de la sécurité, franchement, je crois qu'on aura loupé quelque chose. Parce qu'il me semble que depuis une quinzaine de jours, on ne parle que de Marseille à propos de l'insécurité.
Cela dit, Stéphane, les annonces d'Emmanuel Macron ne se borneront pas aux questions de sécurité.
Oui, même si son conseiller sécurité fait partie de ce déplacement, les annonces concerneraient trois autres thèmes. En premier, l'éducation, motif initial, on le rappelle, de la prise de contact entre le maire de Marseille et le président de la République. 200 écoles doivent être rénovées et depuis plusieurs mois circule ce chiffre d'1 milliard d'euros environ pour ce chantier. Vient ensuite la question de la rénovation urbaine, de l'habitat indigne dont on a vraiment sondé l'ampleur après le drame de la rue d'Aubagne. Et puis enfin, le dossier des transports très insuffisant. 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway actuellement dans une ville qui est 2 fois plus étendue que Paris intramuros.
Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Première journée de fouilles sans résultat dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Recherche entreprise dans une zone boisée des environs de Charleville-Mézières où Michel Fourniret est soupçonné d'avoir enterré la fillette après son enlèvement et son meurtre en 2003. Son ex-épouse Monique Olivier, qui avait indiqué le lieu aux enquêteurs, doit être être amenés sur place aujourd'hui pour éventuellement les guider dans leurs investigations.
Cette question pour terminer ce journal, et si Kylian Mbappé restait au PSG?
Je perçois cette note d'espoir fébrile dans votre cœur de supporter, Julien.
Absolument.
Mais c'est vrai, à quelques heures de la fin du mercato, alors qu'aucun accord n'est intervenu avec le Real Madrid, on peut se demander si finalement il n'est pas parti pour rester, comme on dit, d'autant que les négociations entre les deux clubs ont été suspendues, Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG ne voulait pas vendre sa pépite. C'est aussi simple que cela. Le club parisien s'est montré inflexible dès le début des négociations. Le montant proposé par les Espagnols paraissait pourtant irréel. Le Real Madrid aurait fait une dernière proposition à 200 millions d'euros hier soir pour acheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Mais le PSG n'a pas besoin urgemment d'argent. N'oublions pas que c'est le Qatar qui finance le club. Et puis les règles du fair play financier ont été assouplies en raison de l'épidémie de Covid-19. Même si ce n'est que pour un an, les Qataris veulent voir leur trio magique Mbappé, Neymar et désormais Messi terroriser les clubs de Ligue 1 et briller en Ligue des Champions. Car avec ces trois magiciens, le rêve de remporter la Coupe d'Europe n'a jamais été aussi proche. Les dirigeants parisiens ont été rassurés par l'attitude de Kylian Mbappé dimanche soir, virevoltant balle au pied, auteur d'un doublé. Il a affiché une belle complicité avec Lionel Messi. Kylian Mbappé garde le souhait de rejoindre le Real Madrid, mais Paris va maintenant essayer de le faire changer d'avis en lui proposant un nouveau contrat en or massif. Les dirigeants sont persuadés que Kylian Mbappé dispose de la meilleure équipe pour gagner des titres et remporter le trophée qu'il désire le plus, le Ballon d'Or.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Seulement attention, il reste encore quelques heures avant la fin officielle du mercato. Tout peut encore arriver.
C'est jusqu'à minuit ce soir, 23h59 pour être précise. Merci beaucoup Lionel Gougelot pour ce journal. En prochain journal complet à 5h30.
Il est 5h08, bon réveil sur Europe 1. C'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Dieppe. Et mon pari gagnant sera le 311 Mona Lisa Klaxon. Dans cette course où tous les chevaux seront à vendre au plus offrant après l'arrivée, elle reste sur 2 victoires consécutives dans ce style d'épreuve, notamment la dernière, le 2 août, sur le même parcours que celui qu'elle empruntera cet après-midi, et la facilité avec laquelle elle s'est imposée ce jour-là me laisse à penser qu'elle ne devrait avoir aucune difficulté à réaliser la passe de 3. Alors notez bien, pour Dieppe, réunion 1, dans la troisième course, le numéro 11, Mona Lisa Klaxon.
C'est noté, merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Merci de nous choisir, vous écoutez Europe 1 et vous restez avec nous dans un instant, c'est le pressing.
Ne me regardez pas comme ça, Ambline, on en a déjà parlé, je ne vais pas repasser vos chemisiers.
Ah, pour ça, j'ai une panière là qui attend.
Oui, j'ai bien vu, mais elle va rester là où elle est. D'accord. C'est pas ça le pressing, non, c'est notre revue de presse décalée. Et c'est dans moins d'une minute sur Europe 1, à tout de suite.
Ambline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Les impôts attendront, il est 5h10 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. L'heure pour nous de vous raconter les meilleurs articles à lire ce matin dans vos quotidiens.
Oui, c'est le pressing qui ne pourrait repasser intégralement la presse sans l'aide de Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos principaux quotidiens qui sont nombreux, sans surprise, attitrés sur le départ des Américains d'Afghanistan. Kaboul abandonné aux talibans, peut-on lire à la une du Figaro. Afghanistan, le joug d'après, J-O-U-G. C'est le titre de Libération qui s'intéresse à ce que va ressembler désormais la vie quotidienne sous le régime taliban. Tout autre sujet à la une d'aujourd'hui en France, insécurité, école, logement. Le plan de Macron pour Marseille, titre Le Quotidien, alors que le chef de l'État, on en parlait il y a un instant, effectue à partir de demain un déplacement de 3 jours dans la cité phocéenne. Martin, on commence avec vous. Quel article avez-vous retenu?
Et alors, déjà une question ce matin. Est-ce que vous connaissez les NFT?
Une ligue de foot, non?
Non, pas du tout. Ça veut dire non-fungible token, jeton non-fungible en français.
Alors, c'est vraiment du chinois.
Jeton non-fungible.
Voilà, c'est vrai, c'est pas beaucoup plus clair, je vous l'accorde. Les NFT, c'est en fait les derniers nés des crypto-monnaies. Ce sont des œuvres d'art numériques, des photos, des vidéos, mais dont la propriété est garantie par un certificat.
Ah oui.
C'est-à-dire que vous pouvez les envoyer par mail, par exemple, mais vous restez le seul et unique propriétaire de la photo ou de la vidéo. Et en ce moment, les NFT, on le vend en poupe, ces droits de propriété numériques valent une petite fortune. Un ado anglais en a profité, c'est le Courrier International qui nous raconte son histoire. Il s'appelle Benjamin Ahmed, il a seulement 12 ans, et cet été, pendant que ses petits camarades allaient à la plage, eh bien lui, il s'est lancé dans les NFT, et il a touché le jackpot, près de 350 000 euros.
Mais pourquoi on n'a pas fait ça, en
bien? C'est bien la question que je suis en train de me poser. Ah,
c'est mieux d'aller à la plage,
c'est
franchement.
Mieux d'aller à la
plage. Son idée, elle est toute simple, créer une collection d'œuvres numériques grâce à un logiciel. Il les a appelées les Weird Whales, les baleines étranges. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des petites baleines inspirées du jeu vidéo Minecraft. Il en a décidé un peu plus de 3000. Et ces petites baleines, aujourd'hui, elles s'arrachent jusqu'à 25 000 dollars l'unité. Le père de Benjamin compare le phénomène aux cartes Pokémon. Alors, Benjamin, c'est un petit génie de l'informatique, un geek, comme on dit. Il a commencé à coder à l'âge de 5 ans.
D'accord.
Aujourd'hui, il code tous les jours. Créer cette série de baleines, c'était un jeu d'enfant pour lui. Mais désormais, ses proches veulent surfer sur son succès et son talent. Son père voudrait déposer la marque Weird Wells. Problème, le jeune Britannique ne possède même pas de compte en banque. Il conserve ses 350 000 euros sous forme de crypto-monnaie, des éthers qu'il n'envisage pas du tout de convertir en monnaie réelle. Il préfère raconter son projet et ses exploits derrière son clavier sur sa chaîne YouTube. Si vous voulez prendre un cours de codage, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Il s'appelle Benoni. Un garçon de 12 ans gagne 338 000 euros.
C'est dur à dire.
Ouais, c'est beaucoup trop.
338 000 euros, je vais y arriver. Grâce à des baleines virtuelles, c'est à retrouver sur le site du Courrier International.
Merci Martin. Les Weird Whales, donc.
Les Weird Whales. C'est les drôles de baleines.
Les drôles de baleines, c'est ça, les baleines étranges. Bizarre. Exactement. Ouais. Allez voir, c'est des petits pixels. C'est assez rigolo.
Ah, c'est bien fait.
Omblin.
Oui. Nous sommes le 31 août. Alors tout de suite, je vais plomber un petit peu l'ambiance. Il y a 24 ans, Lady Diana disparaissait brutalement, on s'en souvient tous, dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Elle n'avait que 36 ans. Lady Di, une icône bien avant son décès, un mythe qui ne s'essouffle pas. C'est Libération qui lui consacre aujourd'hui une double page. Alors il faut dire que depuis quelques mois, sa popularité bénéficie d'un sacré coup de pouce grâce à la série The Crown. Je ne sais pas si vous l'avez regardée.
The Crown.
Oh. Extrêmement bien réussi, The Crown. Donc dans la quatrième saison de The Crown, on la découvre, cette Lady Di timide, amoureuse du prince Charles, désireuse de se faire une place dans la famille royale, cette famille royale à qui elle ne va pas hésiter à tenir tête. The Crown amplifie un phénomène, c'est bon comme ça ?
Oui, c'est très bien.
Amplifie un phénomène qui ne s'est jamais essoufflé. Diana, comme dirait Julien. Moderne, rebelle, incomprise, engagée, féministe. Elle a laissé tomber le masque devant le monde entier en révélant qu'elle subissait ce que de nombreuses femmes vivaient dans le monde comme elle. Rappelez-vous de cette interview accordée à un journaliste de la BBC, c'était 2 ans avant sa mort.
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Alors, on était 3 dans ce mariage. Voilà. Ces problèmes conjugaux. La couronne écornée, clairement, ce moment de télé a participé à la construction de sa légende. Diana, également, à jamais un emblème de la mode. De nombreuses marques continuent de s'inspirer de sa garde-robe, publient leur création. Le pull mouton fait régulièrement parler de lui sur les réseaux sociaux. Je vous ai apporté une photo pour vous rappeler. Vous savez, ce pull rouge avec des petits moutons blancs,
on
puis un petit mouton noir au milieu.
Un pull de Noël.
Oui, c'est un peu l'idée. C'est un succès absolument dingue.
Et donc, elle l'a porté à quelle occasion,
elle
ce
l'a
fameux
porté, bah là, c'est sur, on voit, c'est une, lors d'une séance, enfin, comment, un match de polo avec des chevaux.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et puis, elle a dû le porter. Mais oui, bah, c'est sur Diana, c'est forcément chic. C'est
voilà.
Le principe.
Et ça, les marques
c'est
l'ont
ce que
bien
je
compris,
vous dis.
Ouais.
Exactement. La fascination n'est pas prête de s'arrêter. Un nouveau biopic qui va d'ailleurs se focaliser sur la fin de son mariage avec le prince Charles va être présenté à la Mostra de Venise. Vendredi, voilà, Diana, Lady Di, une icône éternelle dans Libération.
À lire donc dans Libération. On passe à moi, Ouline ?
S'il vous plaît.
Oui, vous connaissiez les influenceurs beauté ?
Vraiment quand même des produits que moi personnellement j'adore utiliser en été. Il faut absolument que vous les connaissiez parce qu'ils sont vraiment au top du top,
évidemment.
Top du top.
On connaissait également le top du top des influenceurs cuisine.
Donc en fait le biscuit cuillère, on est sur un biscuit qu'il faut pas trop agresser, qu'on travaille vraiment délicatement avec amour.
Et c'est avec beaucoup d'amour donc que vous allez découvrir les influenceurs de la bourse.
The reason for that is I see 3 interesting opportunities in the market and we're going to talk about all 3 of those. In this video.
Quand les influenceurs font la pluie et le beau temps sur les marchés, c'est un article du Wall Street Journal traduit en français que l'on peut lire ce matin dans l'Opinion. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Meet Kevin, 1,7 million d'abonnés sur YouTube qui quotidiennement écoutent religieusement ses conseils en investissement. Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire et les confinements à répétition, les Américains se sont découverts une passion pour la bourse. C'est simple, en l'espace d'un an, Robinhood Financial, l'application d'investissement la plus prisée du moment et que vous connaissez tous, a vu le nombre de ses utilisateurs passer de 7 à 18 millions. Un nouveau public très jeune qui trouve très barbant de lire le Financial Times ou de regarder les chaînes boursières avec tous ces chiffres qui défilent.
Plein de graphiques.
Et quant à confier leur argent à un professionnel, un gérant de portefeuille classique, c'est niette. Pourquoi payer un service que l'on peut obtenir gratuitement ? Non, ces investisseurs 2.0 veulent du profit rapide et ludique. Et c'est là qu'entrent en scène ces nouveaux gourous de la finance sur YouTube, Instagram, TikTok ou ailleurs. La plupart n'ont aucune qualification en la matière. Leurs conseils tiennent plus de la voyance que de l'expertise, mais ils sont à l'image de leur public, jeunes et branchés, loin du trader de Wall Street dans son costume trop grand. Et puis surtout, ils font rêver, eux ont réussi et n'hésitent pas à le montrer, à le faire savoir. C'est même le cœur de leur business. Regardez ce que mon dernier placement m'a permis d'acheter, ma dernière voiture de luxe, mes dernières vacances à Beverly Hills. Ça fait saliver, vous vous dites pourquoi pas moi, et vous continuez à regarder.
Ils sont bons du coup si ça rapporte. Ça veut dire qu'ils y arrivent ?
Oui, enfin, parfois c'est des voitures de location derrière. Hein. C'est pas forcément des voitures qu'ils possèdent. Et les vacances à Beverly Hills, parfois elles sont offertes par des marques. Alors on oublierait presque cette phrase que tous ces influenceurs prononcent de manière presque étouffée dans chacune de leurs vidéos. Ce conseil de placement n'est pas sans risque, manière de s'éviter un bad buzz et une potentielle pluie de procès en cas d'effondrement du titre en question. Ce qui est assuré, en tout cas, ce sont les revenus de ces gourous de la finance. Meet Kevin, que vous avez entendu au début, a gagné, grâce à ses vidéos, 5 millions de dollars rien que sur les 3 premiers mois de l'année.
Est-ce que vous avez pris des notes quand vous avez regardé la vidéo de Meet Kevin ?
Pas du tout.
Pour boursicoter après
non,
le matinal ?
Non, absolument pas. Non, je me suis contenté de faire cet article. Je suis très content de ma vie et j'ai absolument aucune intention de me lancer en bourse.
Oh ben pourquoi pas ? Bon, en tout cas, merci. Rideau sur le pressing. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 31 août, c'est le journal permanent avec Élise Donjon. Bonjour Élise.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est la fin d'une guerre qui aura duré 20 ans. Les États-Unis ont achevé leur retrait d'Afghanistan cette nuit, laissant le pays aux mains des talibans qui ont célébré leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer aujourd'hui pour expliquer les raisons de ce retrait. L'Union européenne a annoncé le retour de restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire depuis 5 pays, dont les États-Unis et Israël. Enfin, obligatoire depuis cet été pour les clients, le pass sanitaire s'est imposé hier à près de 2 millions de salariés dans les restaurants, les cinémas ou encore les musées. Le pass qui n'a pas pénalisé l'activité économique, dit le gouvernement, qui a par ailleurs annoncé le calendrier de la fin du quoi qu'il en coûte avec sa mesure phare, le fonds de solidarité qui sera supprimé fin septembre.
Merci Élise Donjon. Prochain journal dans 10 minutes à 5h30 avec Christophe Lamarre.
Europe 1.
Il est 5h20 et on passe aux initiatives en France. Et cette question, ce matin, avez-vous déjà pesé le cartable de votre enfant ?
Vous l'avez déjà fait, vous ?
Oui. C'est parfois effrayant. 9 kilos. 9 kilos en moyenne pour un élève de 6e avec tous les livres, avec tous les classeurs, avec tous les cahiers. C'est considérable. Voilà pourquoi, à 2 jours de la rentrée scolaire, on a décidé, Julien, de mettre en lumière une entreprise basée à Pornichet en Loire-Atlantique. Une entreprise qui propose un sac à dos révolutionnaire pour soulager les dos fragiles des enfants, notamment.
Bonjour Eric Mercantini.
Bonjour Julien.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des dirigeants de Kit D'abord, l'entreprise qui commercialise ce sac à dos inédit. Le Gravipack, c'est son nom. Gravi comme gravité, parce qu'il défie en quelque sorte les lois de la physique ?
Tout à fait, oui. C'est un sac à dos qui est révolutionnaire et qui vient modifier en profondeur la conception que l'on a des sacs. Alors ce sac à dos, il fonctionne simplement comme un exosquelette. Donc, qui permet de répartir la charge et qui allège surtout la charge de 92% sur les épaules.
Grâce à quoi exactement ?
Alors, c'est un nouveau principe de bretelles qui sont équipées d'inserts en carbone et qui permettent de répartir la charge sur le centre de gravité du corps et de la positionner de façon équilibrée, donc qui apporte cette sensation de légèreté, donc ôte toutes les tensions essentiellement au niveau du rachis cervical et qui libère les épaules.
Alors, vous l'avez dit, ça permet de soulager les épaules, de prévenir les problèmes de dos. Vous l'avez quantifié, ça, par rapport à un sac à dos classique ?
Oui, ce sac à dos permet d'alléger la charge de 92%. Alors, ce chiffre, il n'est pas donné de façon anodine. Il y a une étude scientifique qui a été menée par l'Université de Lyon 1 et qui permet de démontrer les bienfaits de ce produit, encore une fois, qui est vraiment un produit révolutionnaire. Et on a également un certain nombre de médecins ou d'ostéopathes qui commencent à faire des témoignages sur les réseaux sociaux, qui ont testé le produit, qui l'ont adopté, et qui en parlent avec des mots assez simples pour que tout le monde puisse comprendre les bienfaits de ce produit.
Alors, ce GraviPack est disponible depuis cet été sur votre site internet, mais son histoire est plus ancienne. Racontez-nous.
Alors effectivement, ça part d'une histoire personnelle. L'inventeur, qui s'appelle Mohamed Erafi, faisait de multiples allers-retours et de nombreux voyages avec un sac à dos beaucoup trop lourd. Sa vie dans son sac, et comme il était ferronnier d'art de métier, il a eu un jour l'idée géniale de mettre des inserts en fer dans ses bretelles pour essayer de soulager ses épaules meurtries. Il s'est rendu compte que cet ajustement de son propre produit lui apportait un certain confort, et de là l'idée est née. Donc ça a pris un certain nombre d'années pour arriver au produit que nous connaissons aujourd'hui. Le premier produit fini a été mis au point en 2018, et donc à partir de 2018, il a commencé par enchaîner un certain nombre de prix de récompense. Tout d'abord le trophée, la médaille d'argent au trophée d'Épine, et puis ensuite de nombreuses récompenses sont venus couronner cette invention révolutionnaire.
Ça fait quand même des décennies qu'on parle des problèmes de dos, ce fameux mal du siècle, pour reprendre l'expression qu'on connaît tous. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu attendre 2021 pour qu'un tel sac voie le jour, non ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça paraît assez exceptionnel, parce que c'est une problématique qui touche tout le monde, parce que d'abord, tout le monde a un sac à dos, alors des plus jeunes aux plus âgés. Donc, c'est vraiment une problématique de fond et... Alors, qui n'est pas simplement que franco-française, c'est vraiment un produit utilisé partout dans le monde. Et c'est vrai que jusqu'à présent, alors tout le monde a essayé de trouver, de réfléchir ou essayer d'apporter des solutions. Alors, pour les enfants, on connaît les fameux cartables à roulettes, par exemple, qui venaient essayer de compenser cette problématique du sac trop lourd ou du cartable trop lourd. Mais jusqu'à présent, rien d'équivalent. Donc c'est en ça, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une vraie révolution qui va transformer en profondeur le marché du cartable et du sac à dos. D'abord du sac à dos, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sacs à dos qui sont disponibles, et demain des cartables, parce qu'on est en train déjà de travailler sur des nouvelles collections de cartables pour pouvoir venir anticiper, prévenir ou régler cette problématique du sac ou du cartable trop lourd dès le plus jeune âge.
Ça coûte combien un GraviPack pour les familles qui nous entendraient ce matin ?
Alors, le GraviPack, le modèle scolaire, coûte 149 euros.
Ce qui n'est pas donné.
Alors, ce qui est effectivement plus cher qu'un sac à dos classique, après, il faut comparer ce qui est comparable, parce que là, on parle d'un produit, d'abord, qui a une conception qui est extrêmement coûteuse et technique par rapport au sac à dos classique. Ensuite, il est fait avec des matières qui sont de très bonne qualité. Les produits sont garantis 10 ans, et c'est avant tout, on n'achète pas un simple sac à dos classique, on achète un vrai dispositif médical. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient... prévenir, anticiper ou en tout cas soulager des problématiques de dos. Donc c'est pas du tout une même un achat plaisir classique, mais c'est un vrai achat réfléchi. Et donc dans ce contexte-là, 149 euros pour la santé de nos enfants me paraît pas forcément excessif.
Merci Eric Mercantini d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir fait découvrir ce sac à dos qui soulage les épaules des petits et des plus grands. On peut se le procurer sur le site de votre entreprise, gravipack.com. Merci et à bientôt sur Europe 1.
Merci à vous, bonne soirée. Europe Matin.
C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné. C'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. C'est l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras, et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi. c'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent. C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire. Que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir. Qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. À la santé des gens que j'aime, c'est grâce à eux que moi je tiens. Ils sont mon eau, mon oxygène, toute la lumière sur mon chemin.
À la santé des gens que j'aime, c'était Patrick Bruel sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bon réveil à tous. Votre matinale info sur Europe 1 se poursuit avec au programme, Julien.
Un roman mêlant polar et poésie, le dernier livre de François-Henri Désérable que va vivement nous conseiller Nicolas Carreau dans une quinzaine de minutes. Mais avant cela, Omblin, cette question que se posent de nombreux parents à deux jours de la rentrée scolaire, comment faire reprendre un bon rythme de sommeil à nos enfants?
Oui, les soirées d'été en totale liberté, les grasses matinées, c'est terminé. Mais vous allez voir, ça va bien se passer.
Ah bah oui.
On va écouter les conseils d'une médecin psychiatre spécialiste du sommeil. Elle va nous aider ce matin à recaler nos enfants à l'heure de l'école.
Elle, en revanche, a totalement décalé son rythme de sommeil pour nous donner la météo de bon matin. C'est Anissa Haddadi en studio avec nous. Anissa, même si le soleil arrive cet après-midi, attention au brouillard ce matin.
Oui, prudence. Hein, si vous prenez la route ce matin du nord-est jusqu'au centre, donc des Ardennes aux plaines d'Alsace et puis dans le Val-de-Saône, dans le Lyonnais, même jusqu'au nord de l'Auvergne et jusqu'au Poitou, et bien dans toutes ces régions, les brouillards sont nombreux et ils sont par endroits très épais. Donc levez le pied, prenez le temps ce matin, parce que la bonne nouvelle, c'est quand même que sur toute la moitié nord du pays, même si la matinée sera très grise, le soleil va s'imposer dans l'après-midi avec encore sur les côtes de la Manche un petit peu de vent, hein, ce vent de nord-est qui souffle jusqu'à 50 km/h. Sur la moitié sud, il fait très beau encore aujourd'hui, une belle journée d'été avec un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône et puis du vent d'ouest sur la Corse. Quelques gouttes, hein, comme hier, sur les reliefs alpins, corse et pyrénéens. Les températures, un peu fraîches dans le centre avec 8 degrés à Montluçon, 10 degrés à Périgueux, 11 à Albi, et vous allez voir qu'on a les mêmes températures dans le sud et dans le nord grâce aux nuages. 13 à Bordeaux et Strasbourg, 15 pour Ajaccio et Brest, ce qui est rare, 16 degrés à Paris et Marseille et 17 ce matin pour Dunkerque et Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il n'y a plus de soldats américains en Afghanistan. Le dernier Marines a rembarqué et quitté Kaboul hier soir, 24 heures avant la date butoir fixée par le président Joe Biden. Un départ salué par les talibans. Le bruit des armes automatiques a résonné un peu partout dans le ciel de la capitale pour célébrer la fin de la présence américaine. Et les États-Unis qui laissent derrière eux un véritable arsenal de guerre. Bientôt le retour en présentiel dans les entreprises. À partir de demain, le télétravail obligatoire ne sera plus la norme. L'État laissera le soin aux sociétés de s'organiser en interne avec les organisations syndicales. Et puis le retour de la vente à emporter dans les cafés et restaurants, c'est l'une des conséquences du pass sanitaire. Les clients désertent les salles et les terrasses pour déjeuner ou boire un verre à l'air libre, sans QR code. Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Il était 21h29 hier soir, heure de Paris. À plusieurs milliers de kilomètres de là, à Kaboul, un C-17 de l'US Air Force s'est placé en bout de piste de l'aéroport, a pris son élan, puis s'est envolé. À son bord, les derniers soldats américains et le personnel de l'ambassade. Le retrait militaire américain s'achève donc avec 24 heures d'avance, beaucoup d'amertume et pas mal de désillusions. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant à Washington.
Oui, la fin d'une guerre de 20 ans qui a vu 4 présidents se succéder à la Maison-Blanche, près de 2500 soldats tués et des milliards de dollars dépensés depuis 2001. Le dernier avion américain a donc décollé une minute avant minuit hors de Kaboul avec à son bord l'ambassadeur américain en Afghanistan. Retrait définitif qui respecte la date butoir du 31 août négociée entre les talibans et Washington. Retrait annoncé non pas par Joe Biden mais par le général McKenzie. L'évacuation militaire est terminée mais la mission diplomatique se poursuit pour assurer le départ des citoyens américains et des Afghans éligibles qui veulent partir. Alors au total, les États-Unis ont évacué 123 000 personnes, non plus de 6 000 citoyens américains, mais des milliers d'Afghans qui ont travaillé avec l'armée américaine sont toujours coincés en Afghanistan. Nous n'avons pas pu évacuer tous ceux que nous voulions évacuer, a reconnu le général. C'est la fin d'une opération de retrait périlleuse depuis la prise de Kaboul par les talibans. Il y a deux semaines, mission marquée par plusieurs images. La foule d'Afghans massée devant l'aéroport, s'accrochant parfois aux avions pour fuir le pays, ou encore l'attentat de jeudi et les dizaines de personnes tuées par l'État islamique. Joe Biden, quant à lui, s'exprimera tout à l'heure devant la nation pour expliquer sa décision de ne pas rester en Afghanistan au-delà du 31 août.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Washington affirme que les Américains travailleront avec les talibans s'ils tiennent leurs engagements.
Et cela signifie notamment la possibilité pour les Afghans et les ressortissants étrangers de pouvoir quitter l'Afghanistan s'ils le souhaitent. Résolution adoptée hier par 13 voix contre 15 à l'ONU. La proposition de safe zone, de zone de sécurité évoquée par Emmanuel Macron n'a pas été retenu.
Le départ des Américains permet aussi aux talibans de mettre la main sur un trésor de guerre.
Héritage d'une présence militaire qui aura duré 20 ans, une partie du matériel militaire américain est restée sur place. Et même si le Pentagone affirmait hier soir avoir détruit une centaine d'avions et de véhicules blindés avant de partir, les talibans vont récupérer plusieurs tonnes de matériel militaire, Didier François.
C'est ça, une véritable caserne d'Ali Baba. Imaginez, les talibans ont mis la main sur 360 000 fusils d'assaut de type M4, ce qui est énorme. Et pour vous donner une idée, l'armée française, qui est en train de remplacer ces vieux FAMAS, a commandé 120 000 exemplaires d'un modèle équivalent, ce qui est seulement un tiers de ce que les talibans viennent de récupérer gratuitement. À nous, ça va nous coûter 300 millions d'euros et les livraisons vont s'étaler jusqu'en 2028. Et surtout, le butin taliban ne s'arrête pas là. 130 000 pistolets, 65 000 mitrailleuses lourdes, 42 000 pick-up et 8 000 camions, ce qui leur offre une excellente mobilité et une sérieuse puissance de feu. Ajoutez à cela 160 000 postes radio et 16 000 paires de jumelles de vision nocturne, eh bien, ils vont pouvoir combattre la nuit, ce qui finalement est bien plus gênant que les 2 000 blindés légers, les 170 pièces d'artillerie et même les quelques hélicoptères perdus, qui sont certes extrêmement symbolique de l'ampleur de la défaite subie, mais qui finalement auront peu d'impact sur le plan militaire, parce que pour le coup, les talibans auront vraiment du mal à maintenir cet équipement en condition opérationnelle.
Didier François.
5h34 sur Europe 1 et ce constat, le télétravail obligatoire c'est bientôt fini. À partir de demain, l'État laissera aux entreprises le soin de s'organiser.
Elles vont reprendre la main et organiser effectivement elles-mêmes les règles du télétravail. Un jour, deux jours par semaine, davantage ou pas du tout. Et même si certains salariés, notamment les cadres, ont pris goût au télétravail, les entreprises sont plutôt satisfaites de pouvoir reprendre la main. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
La décision qui a été annoncée est pour nous une excellente nouvelle. Ce n'est pas vers la fin du télétravail, c'est vers le début du télétravail organisé et durable. C'est-à-dire que nos accords de télétravail, il y en a plus de 20 000 qui ont été passés, peuvent enfin s'appliquer pleinement. En moyenne, on est sur deux jours par semaine. Alors comment ça va se passer? Je crois que l'important, c'est de ne pas opposer télétravail et travail sur site d'une part, et de ne pas créer une injonction au télétravail. Parce que vous avez des gens qui n'aiment pas le télétravail et qui ne souhaitent pas du tout y participer. Donc l'entreprise devra trouver le bon équilibre entre un télétravail qui permet de répondre aux aspirations des gens, notamment dans l'organisation de la vie privée, et qui en même temps ne dégrade pas quelque chose qui est essentiel dans n'importe quelle organisation, c'est-à-dire l'existence d'un collectif de salariés qui travaillent ensemble pour une même entreprise et dans un projet commun.
Certains salariés ont donc pris goût au télétravail, d'autres redécouvrent les joies de la vente à emporter dans les cafés et les restaurants, parfois contraints et forcés.
Et oui, c'est l'effet du pass sanitaire. Sans lui, impossible de s'asseoir à la table d'un café ou d'un restaurant pour déjeuner ou simplement prendre un verre. Qu'à cela ne tienne, les clients se sont adaptés une nouvelle fois. C'est le retour de la vente à emporter. Reportage à Vannes dans le Morbihan, Charles Guyard.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce qu'il faudra ?
La pratique avait été abandonnée au début de l'été, mais l'entrée en vigueur du pass sanitaire a relancé le à emporter dans les restaurants.
Sur place ou emporter ?
Botica, dans le centre-ville de Vannes, par exemple, Thierry a ressorti son affiche proposant de repartir avec sa commande. Résultat ?
Et là, c'est revenu à la normale. Quand ils sont 5 et qu'il y en a un qui n'a pas de pass sanitaire, au lieu de manger là, ils prennent à emporter.
Pas facile néanmoins de jongler entre un service en salle tout en préparant des plats à emporter.
Il y a des sacs, il y a des emballages, il y a une préparation en amont. En fait, ce qu'on ne fait pas quand on envoie sur une assiette, vous ne faites pas attendre les gens pendant 20 minutes dehors et puis en même temps, vous avez des gens qui sont aussi à table et vous, vous êtes obligé de ne pas les faire attendre non plus.
Et ce qui est vrai en restauration l'est aussi en bar. Au bistrot de Jeanne, Alexandra garde une réserve de gobelets cartonnés pour ceux qui ne s'installent plus aux tables.
Les jours de marché, les maraîchers prennent à emporter parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Alors qu'avant, ils prenaient quand même le temps le matin de s'asseoir 5-10 minutes pour prendre leur café.
De son côté, le syndicat des restaurateurs encourage à maintenir autant que possible l'alternative du à emporter. Bruno Kerdal, président de l'UMI 56.
C'est un moyen de maintenir le lien avec sa clientèle.
Et au Tika, depuis mi-août, près d'un repas sur deux est ainsi consommé en dehors du restaurant.
À emporter, s'il vous plaît.
Vannes, Charles Guir, Europe 1.
On termine avec un peu de sport, Christophe.
En tennis, 6 Français éliminés dès le premier tour de l'US Open. Joe Wilfried Tsonga a déclaré forfait avant même de débuter son match. Qualification en revanche de Caroline Garcia pour le deuxième tour. En football, dernières heures du mercato d'été, ce soir à minuit, ce sera terminé, y compris pour le feuilleton Kylian Mbappé, qui devrait finalement rester à Paris pour sa dernière année de contrat. C'est ce que croient savoir nos confrères de l'équipe, sauf rebondissement, bien entendu.
Bien entendu, c'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est sur la ligne droite de l'hippodrome de Dieppe que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi les numéros 5 Satisfied et 4 Millard Song, qui dépendent tous les deux de l'entraînement d'Ovillet en très grande forme, celui de Stéphane Vatel, visiblement bien armé au départ de ce Quintet. Précisons que Satisfied et Millard Song possèdent des références solides sur ce type de tracé rectiligne et qu'ils devraient pouvoir justifier les bruits favorables dont ils font l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. On leur opposera les numéros 2 Tudobem et 10 Raistave, souvent placés dans cette catégorie des quintets, sans pour autant avoir réussi à en gagner un. Ensuite, je vous recommande Madouce, le numéro 9, et Anatia, le numéro 13, deux pouliches âgées de 3 ans qui vont évoluer sur une distance à leur entière convenance et qui ne sont pas incapables ici, même face à leurs aînés, d'accrocher une place à une cote spéculative. Enfin, les numéros 8, Toishk, et 7, Mutraforth, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 4, 2... 10, 9, 13, 8 et 7.
Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et à demain. Vous restez avec nous, on va parler du sommeil de nos enfants après deux mois de vacances, avant que la cloche ne sonne. Elle a déjà sonné pour nous. Hein.
Oui.
Oui. Puis un peu plus d'une semaine maintenant. Quelles sont les astuces pour leur faire reprendre un rythme habituel, celui de l'année scolaire, hein ? À tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h41, bon début de journée à vous sur Europe 1. J'espère que vos enfants dorment encore, ils vont peut-être faire la grasse matinée, pourquoi pas. Sauf que jeudi matin, il faudra à nouveau programmer leur réveil pour la rentrée. Il nous reste donc un peu de temps pour caler à nouveau nos enfants sur le rythme scolaire. C'est chaque année la même histoire.
Et oui.
Mais c'est toujours utile de rappeler les bons conseils. Conseils prodigués par votre invitée Omblin, une spécialiste du sommeil, la psychiatre Sylvie Royan-Parola.
Bonjour Sylvie Royan-Parola.
Oui, bonjour.
Pendant les vacances, on a laissé nos enfants se coucher tard. Jeudi, ils devront être sur le pont à 8h ou 8h30. Le réveil sonnera donc à l'aube. Comment faire pour que mon enfant retrouve son rythme de sommeil, disons, habituel ?
C'est difficile, mais déjà, deux jours avant, il faut commencer à les réveiller un petit peu plus tôt pour les préparer correctement, les réveiller à 7h30, 8h maxi, et surtout leur proposer ces deux derniers jours qui restent, des activités où ils vont pouvoir faire quelque chose qui les intéresse le matin. Donc, essentiellement de sortir dehors pour profiter de la lumière du jour le matin. Et puis, abandonner un peu toutes les activités qui sont autour des écrans, que ce soit la télévision, que ce soit les portables, et particulièrement veiller le soir à ce que, à partir de 7h30, 8h, tout ce qui est connexion, internet, téléphone soit arrêté.
Alors oui, alors ce soir, il y a l'émission Koh-Lanta à la télé, je ne laisse pas mon enfant regarder.
Non. Vous l'enregistrez, il pourra le regarder un autre jour, à un autre moment.
On rentre de vacances pendant lesquelles on a été peut-être un petit peu moins sérieux avec les repas parfois trop sucrés, avec l'heure des repas aussi souvent tardive. Pour favoriser l'endormissement, ce serait quoi, selon vous, le dîner idéal avant le retour à l'école ? Ou même le repas dans la journée.
Il y a des choses plutôt sympas au niveau du soir pour les enfants qui, justement, aident plutôt l'endormissement. Ce sont les sucres lents. Les sucres lents, notamment, ce sont les pâtes. Faire plutôt des pâtes les 2-3 premiers jours le soir, éventuellement avec une sauce, bien sûr, mais sans autre adjonction de gras comme de la mayonnaise ou je ne sais quoi, qu'ils ont peut-être beaucoup consommé pendant les vacances. Terminer par un yaourt, un fruit, des choses classiques, mais pas du tout sophistiquées. Le midi, faire plutôt un repas plutôt à base de protéines. Et puis après, ils seront peut-être à l'école de toute manière avec la cantine. Donc là, on contrôle beaucoup moins bien ce qui se passe.
Mais vos conseils sont bien sûr valables maintenant pour la rentrée, pendant l'année scolaire. On doit conserver ce rythme.
C'est vrai que les sucres lents, de toute manière, le soir, sont plutôt à privilégier dans la soirée que le midi. Mais maintenant, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de contrôler ce qu'ils vont manger le midi, parce que dans les cantines, il y a souvent soit des choses qu'ils ne vont pas manger, soit ils vont privilégier, quand il y a le choix, des pâtes, des frites, du riz, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça fera un petit peu doublon. Dans la bonne chronobiologie, disons, de l'organisation des repas, et notamment pour bien structurer les rythmes, ce sont plutôt des protéines le midi et plutôt des sucres lents le soir qui fonctionnent mieux.
On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec la télé et l'émission sur TF1, mais l'autre grande difficulté des parents d'ados, ce sont les écrans bleus qui perturbent l'endormissement. On fait quoi avec le téléphone portable quand un enfant a 14, 15, 16 ans? C'est quand même compliqué de se battre.
C'est compliqué de se battre, mais d'un autre côté, la parole des parents est toujours entendue, même si ça se termine par... de toute manière, je vais le regarder, enfin, je vais me servir de mon téléphone, ou une situation telle que le jeune garde quand même son téléphone alors que vous le souhaitez pas. Il a entendu que c'était pas une chose à faire régulièrement. Donc ça, c'est déjà important. C'est-à-dire que même si il n'obéit pas, entre guillemets, ou ne se soumet pas tout de suite à la consigne, c'est quelque chose qu'il aura en tête pour la suite. Et c'est pas perdu quelque part. Donc ne vous désespérez pas, même s'il a pas entendu à ce moment-là, il l'entendra peut-être plus tard. En tout cas, la consigne, c'est qu'effectivement, il faut lâcher les écrans, alors selon l'âge, 1 à 2 heures avant d'aller se coucher. Et en tout cas, surtout leur demander de bien éteindre leur portable la nuit, pour qu'il n'y ait pas ni de notification, ni l'envie d'aller répondre à des messages et de passer du temps dans la nuit qui va être nécessairement très problématique par rapport au sommeil, parce qu'à ce moment-là, le sommeil va être non seulement entrecoupé, mais le jeune va avoir du mal à se rendormir et va pouvoir passer 1 heure ou 2 heures, hein, c'est ce qu'on montre dans les études que l'on a faites, où il va rester réveillé, et là, évidemment, avec un déficit de sommeil qui sera important le lendemain. Donc ça, c'est vraiment tout à fait évité.
Merci beaucoup, Sylvie Royan-Parola. Je rappelle que vous êtes psychiatre et médecin spécialiste du sommeil. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
5h46 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Pile à temps pour notre prescription culture.
Et le mardi, c'est littérature avec Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Nicolas, ce matin, vous nous proposez le nouveau roman de François-Henri Désérable chez Gallimard. Ça s'appelle « Mon maître et mon vainqueur ».
Oui, est-ce que ça vous plairait un peu de poésie pour débuter la journée ?
Ah bah oui.
Alors j'y vais. Est-il sensible ou moqueur ton cœur ? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. C'est de Paul Verlaine et le titre du nouveau roman de Désérable est donc tiré de ses vers.
Et c'est donc, Nicolas, une histoire d'amour.
Alors oui, mais pas seulement, c'est aussi un peu un roman policier. Écoutez la première phrase. J'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une armurerie. Il est donc question d'armes à feu. Ça fait rarement bon ménage avec l'amour. Le narrateur est dans le bureau d'un juge au début du roman. Lui n'a rien fait. Il est là comme témoin pour tenter de comprendre le crime, si crime il y a, qu'a commis son ami Vasco. Il raconte son histoire au juge, l'histoire d'amour entre Vasco donc et Albertine, que tout le monde appelle Tina. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais le juge a une pièce à conviction avec lui, un cahier rempli de poèmes qui racontent ce qui s'est passé, mais en langage poétique et donc sujet à interprétation. Évidemment, tous ces poèmes sont dans le livre et on alterne entre l'histoire racontée par le narrateur et ces poèmes, tous composés par François-Henri Désérable.
J'ai d'abord écrit ces poèmes suite à un chagrin d'amour qui m'est arrivé. Mon intention initiale était de publier un recueil de poèmes et je me suis ravisé. J'ai pris un certain nombre de ces poèmes et j'ai décidé de les enrober de fiction, de construire une histoire à partir de ces poèmes. Et j'ai imaginé que ce cahier sur lequel se trouvent des poèmes écrits par Vasco détient la clé d'une histoire d'amour. Et le juge d'instruction convoque le meilleur ami de Vasco et il lui demande de se faire l'exégète du recueil de poèmes pour l'aider à résoudre cette enquête.
C'est un polar poétique en fait.
Exactement. Vasco donc est tombé amoureux de Tina, mais Tina n'est pas libre et elle a des enfants, sauf qu'elle tombe aussi amoureuse de Vasco le jour où ce dernier l'emmène dans une salle de lecture de la BNF, la Bibliothèque Nationale, où il travaille. Il lui montre les manuscrits les plus célèbres de l'histoire littéraire, Les Fleurs du Mal, Rimbaud, mais aussi la première Bible imprimée. Tous ces manuscrits sont d'ailleurs bel et bien à la BNF. Or, Tina est dingue de littérature.
Et elle tombe sous le charme grâce aux manuscrits.
Voilà, pas seulement, hein, elle est séduite aussi par Vasco, tout simplement, mais leur histoire commence. Mais c'est une relation donc adultère et on sait comment ça se passe. Dans ces cas-là, tout le monde souffre. Il y a de la douleur et éventuellement de la violence. Alors, je ne peux pas tout vous raconter et vous dire pourquoi, mais Vasco cherche à se procurer une arme. Or, il réalise qu'en France, on n'achète pas une arme comme ça. C'est compliqué, il y a des papiers à remplir, on ne peut pas l'avoir tout de suite. Alors, il décide d'aller plus vite. Et justement, une vente exceptionnelle est organisée. Le revolver de Verlaine est mis aux enchères et l'idée plaît bien à Vasco qui décide d'enchérir.
Donc, c'est le vrai pistolet de Verlaine.
Oui, celui avec lequel il a tiré sur Rimbaud. François-Henri Désérable nous raconte cette histoire vraie.
Le 10 juillet 1873, Paul Verlaine acquiert un revolver avec lequel il menace de se faire brûler la cervelle si sa femme ne revient pas auprès de lui. Et puis, il est à Bruxelles, donc il commence à boire un peu avec Rimbaud. Rimbaud lui fait part de son intention de rentrer à Paris. Et Verlaine, pris de boisson, il lui dit « Voilà pour toi, puisque tu pars », il tire deux balles, dont l'une vient se loger dans le poignet d'Arthur Rimbaud. Verlaine va être arrêté ensuite, il va être condamné, il va faire près d'un an et demi de prison, notamment à Mons, en Belgique. Et des années plus tard, il y a quelques années, ce revolver a été vendu aux enchères chez Christie's.
Et il s'est vendu cher, Nicolas ?
Très, bien au-dessus des moyens de Vasco dans la fiction, mais c'est un roman, donc il trouve une astuce, et bien au-dessus des moyens de François-Henri Désérable, qui s'est pourtant rendu à la vente aux enchères. Il a même enchéri, c'était en 2016.
J'ai mis la première enchère, 50 000 euros, qu'évidemment je n'aurais pas eu les moyens de payer. La mise à prix était plus basse que l'estimation la plus basse, donc je savais très bien que le revolver allait partir pour beaucoup plus cher, et effectivement il est parti pour plus de 400 000 euros.
Ah oui, 400 000 euros. Que va en faire Vasco, du coup ?
Alors ça, vous lirez pour savoir. C'est un roman court, 200 pages, vif, drôle et très beau.
Mon maître et mon vainqueur, donc le polar poétique de François-Henri Désérable. Merci Nicolas Carreau.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent à 5h51, l'essentiel de l'actualité de ce mardi matin avec vous Élise Dangean.
Les tirs victorieux des talibans ont résonné cette nuit dans Kaboul, la capitale afghane d'où est parti le dernier avion américain. Hier soir, les États-Unis se sont totalement retirés du pays. Le terme de 20 ans de guerre avec les talibans, au total plus de 123 000 civils ont été exfiltrés. Joe Biden doit prendre la parole aujourd'hui pour tenter de justifier les raisons de ce retrait. En France, une 7e campagne de fouilles a commencé dans les Ardennes pour rechercher le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 et victime présumée de Michel Fourniret. Pour ce deuxième jour de recherche, l'ex-femme du tueur en série Monique Olivier sera présente aux côtés des enquêteurs. Un pas important pour les victimes de violences conjugales, la ligne d'écoute du 3919 est désormais joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, la France a décroché cette nuit 3 nouvelles médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo, tout en cyclisme. Alexandre Léauté a obtenu le bronze, tout comme Florian Joigny. Loïc Vergnaud, quant à lui, devient lui vice-champion paralympique du contre-la-montre H5.
Merci Élise Dangean, journal complet dans 8 minutes à 6h avec Romain Oquet.
Europe Matin.
Et après l'info nationale et internationale, on s'intéresse maintenant à l'actualité au plus près de chez vous. C'est notre tour de France des quotidiens régionaux. Et ce matin, Julien, on prend la direction de la vallée de la Roya.
Avec Patrice Maggio, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin, où l'on peut lire dans l'édition du jour un reportage sur la réouverture des gorges de Paganin. C'est dans le haut de la vallée de la Roya qui, on s'en souvient tous, a été meurtrie et dévastée il y a 11 mois par la tempête Alex. La vie donc reprend peu à peu.
Oui, c'est très loin, hein, ces gorges de Paganin, c'est environ à 2 heures du littoral. Et c'est vrai que depuis 11 mois que la tempête a eu lieu, les gens sur place ne peuvent pas encore circuler librement. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de circuler encore par convoi. Et depuis hier, ils peuvent le faire par alternance, ce qui est déjà un immense progrès. C'était une des dernières différences avec la vie d'avant. Donc on peut dire que la vie revient, même si c'est encore douloureux, même si c'est encore compliqué, mais elle revient.
Donc c'est une portion de route, pour qu'on comprenne bien, qui a été inaugurée hier, qui a été totalement refaite.
Oui, il faut imaginer les ravages causés par cette tempête. Il y a 11 mois, il y a deux vallées des Alpes-Maritimes, la Vésubie et la Roya, qui ont vraiment été dévastées à l'époque en une seule nuit. La Roya, c'est vraiment une petite vallée qui longe la frontière italienne, où il y a un certain nombre de gens qui y vivent à l'année, mais il y a aussi de l'activité touristique. Donc la route a parfois été dévorée par la tempête, il a fallu la reconstruire, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Vous savez que la tempête Alex s'est estimée à quasiment 1 milliard de dégâts, 1600 familles impactées, donc ça prend forcément un temps. Et 11 mois, on peut même se dire que ça s'est fait relativement rapidement, même si ce n'est pas la vie des habitants sur place.
Alors jusqu'à présent, vous le disiez, les habitants, pour emprunter cette route, devaient prendre un convoi à heure fixe, encadré par des agents ou des gendarmes. Pour autant, tous les travaux sont loin d'être terminés, ça va prendre encore de très longs mois.
Quand on est sur place, on a l'impression que la tempête a eu lieu hier, parce que dans le lit des cours d'eau de la rivière, il y a encore les traces de la tempête. Mais on considère que ce n'était pas l'urgence. L'urgence, c'est effectivement que les gens puissent dormir chez eux, puissent circuler librement, que l'activité économique puisse reprendre. Et c'était vraiment ça la priorité.
Il y a des ponts entiers à reconstruire, des berges à protéger, sans compter toutes ces maisons à reconstruire, celles qui ont été emportées par les flots ou endommagées. C'est un travail titanesque, on le comprend bien, d'autant qu'il faut tout redimensionner, si j'ai bien compris, pour éviter une nouvelle catastrophe à l'avenir.
Oui, il y a une vraie inquiétude, hein. On est au début de l'automne, on se demande d'ailleurs, avec le souvenir de l'année dernière, si on est à l'abri d'un nouveau signe du dérèglement climatique. On sait très bien que chaque année, il y aura cette inquiétude sourde dans la tête des gens. Donc il y a des travaux d'urgence qui ont été réalisés. C'est vraiment des scènes d'après la guerre, quoi, avec des ponts parfois que l'on trouve dans les films de guerre qui sont diffusés. Donc il y a eu des travaux provisoires et puis on construit quand même, on veut repartir sur des travaux en dur parce que les gens se projettent. Certains ont fait le choix d'aller vivre sur le littoral, mais la plupart considèrent que leur pays, ce sont ces vallées de montagne et qu'ils veulent y rester pour les temps futurs.
Et 11 mois après le passage de la tempête, il y a toujours des dizaines de familles qui n'ont toujours pas reçu l'autorisation de rentrer chez elles. Merci Patrice Maggio d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir raconté l'un des articles à lire aujourd'hui dans Nice Matin. Bonne journée à vous et on vous retrouve très vite, j'espère, sur Europe 1.
Au revoir.
Europe 1.
enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it, I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
On l'a entendu partout cet été, c'était Follow You sur Europe 1, le dernier tube du groupe américain Imagine Dragons.
Et ça fait 3 ans qu'on l'attend, le nouvel album d'Imagine Dragons qui s'appelle Mercury Act 1 sortira vendredi.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, très bon réveil à tous et courage si vous partez déjà au travail, on est là pour vous accompagner avec le sourire.
Oui, mais tu sais, le sourire, on peut rapidement le perdre si on est en plein travaux. De nombreux chantiers prennent du retard, vous avez dû en entendre parler autour de vous sans doute.
Oui, et c'est la conséquence d'une pénurie. Le bois, l'acier, le plâtre ou encore le PVC se font rares. Les entreprises du bâtiment ont de plus en plus de mal à se fournir en matériaux. Résultat, vous l'avez dit, Omblin, des chantiers qui prennent du retard. On va en parler à 6h10 avec le président de la Fédération française du bâtiment. Et puis juste après, on va lâcher nos truelles de l'info pour votre partition, Omblin.
En 1968, selon Jimi Hendrix, il était le meilleur jeune guitariste des États-Unis. Il s'agit de Billy Gibbons, accompagné du batteur Frank Beard et du bassiste Dusty Hill, disparu cet été. La partition de ZZ Top à 6h20.
Mais avant, levons les yeux au ciel avec espoir, celui d'un soleil radieux qui baignerait de ses rayons toute la France et pas uniquement le sud. Est-ce que je rêve, Anissa Dadi ?
C'est beau ce que vous dites, Julien, vous ne rêvez pas. Alors on va avoir une bande-annonce de la journée. Pas terrible, pas très vendeuse sur la Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien, le Grand Est, l'Auvergne, le Poitou. Alors dans toutes ces régions, ce matin, vous allez un peu déprimer parce que vous allez vous dire si la journée commence comme ça, ça va pas être terrible. Rassurez-vous, prenez les lunettes de soleil, mettez-les dans un coin parce que vous allez vous en servir. Cet après-midi, le ciel va se dégager sur la moitié nord du pays après la dissipation des brouillards. C'est un soleil radieux, comme le disait Julien, qui sera présent toute l'après-midi. Et là, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Sur les plaines d'Alsace, nous aurons encore un peu de nuages et un petit risque d'averse. Et puis sur la moitié sud, là, rien à signaler, c'est l'été avec encore un peu de mistral au bord de la Méditerranée. 8 degrés à Rodez, c'est frais ce matin, 11 à Limoges. Ailleurs, il fait doux grâce aux nuages, 13 à Toulouse et Metz, 15 à Brest et Lyon, 16 à Paris et La Rochelle, 17 à Martigues et 19 à Nice ce matin.
Merci Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. The Taliban can do that.
Notre message est le suivant, tout soutien devra être gagné, les talibans peuvent le faire en respectant leurs engagements et leurs obligations, les mots du secrétaire d'État américain alors que les derniers soldats ont quitté hier l'Afghanistan. L'Europe de son côté anticipe l'arrivée de milliers d'Afghans par les routes migratoires. C'est la première fois qu'ils manifestent en France, près de 200 pro-vaccins se sont réunis hier soir à Lyon. À 48 heures de la rentrée scolaire, première polémique pour le gouvernement qui a dévoilé sa campagne sur la laïcité à l'école, plusieurs syndicats dénoncent un dévoiement raciste. Et puis, direction Mayotte, département sous pression migratoire. Gérald Darmanin, en déplacement sur l'île, veut limiter l'accès à la nationalité française. Qu'en pensent les habitants ? Réaction à la fin de ce journal. Le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 21h29, heure française hier soir. Le dernier avion américain quitte l'Afghanistan. Un moment historique. La fin de 20 ans d'occupation, la plus longue guerre menée par les États-Unis. Après le départ des dernières forces occidentales, le piège se referme donc pour les Afghans qui n'ont pas été évacués. Cette nuit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a envoyé un message aux talibans.
Les talibans cherchent une légitimité et un soutien international. Notre message est le suivant. Tout soutien devra être gagné. Les talibans peuvent le faire en respectant leurs engagements et leurs obligations. Sur la liberté de voyager, sur les droits des citoyens, y compris les femmes et les minorités, en tenant leurs promesses sur la lutte antiterroriste, en ne commettant pas de violence contre ceux qui ont choisi de rester en Afghanistan et en formant un gouvernement inclusif qui respecte les besoins et les aspirations du peuple afghan.
Le secrétaire d'État américain a aussi annoncé le transfert de l'ambassade à Doha, au Qatar, alors que 100 à 200 Américains sont toujours en Afghanistan. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer dans la journée.
Les Européens, eux, se concertent cet après-midi. Réunion extraordinaire entre les ministres de l'Intérieur des 27. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Les États européens veulent surtout anticiper un éventuel flux migratoire.
Oui, tout préparé au cas où, car ils ont en tête la grande vague migratoire de 2015. On a appris dans la douleur, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, veut croire un diplomate. D'ailleurs, les 27 sont d'accord sur une chose, ils veulent faire tout leur possible pour que les Afghans restent dans la région. Le modèle, c'est l'accord conclu avec la Turquie en 2016 pour les Syriens. En clair, des milliards versés contre le maintien des réfugiés sur le sol des pays voisins. En parallèle, Paris et Berlin vont pousser aujourd'hui pour une réinstallation en Europe de réfugiés vulnérables, identifiés par les Nations Unies, des femmes et des enfants notamment, mais sur une base volontaire. La Commission européenne attend des contributions d'ici la mi-septembre, mais l'Autriche et certains pays de l'Est ne veulent prendre personne. Le risque, c'est donc un nouvel étalage de divisions sur ce sujet migratoire si sensible. Pourtant, les 27 ont bien conscience qu'ils doivent parler d'une seule voix. Des messages divergents pourraient créer des appels d'air vers tel ou tel pays, s'inquiète déjà une source européenne.
Les précisions d'Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et puis à noter ce rassemblement en solidarité avec les Afghans prévu ce soir, place de la République à Paris.
6h et près de 4 minutes sur Europe 1, la suite du journal de Romain Hoquet et la pression sur l'hôpital qui n'augmente plus.
Près de 2300 malades du Covid sont actuellement en soins intensifs. Un chiffre stable depuis une semaine alors que 65% des Français sont protégés par le vaccin.
Et c'est justement pour défendre la vaccination que 200 personnes se sont réunies hier soir, place Bellecour à Lyon. Une première en France, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Ta liberté commence là où s'arrête la mienne, sur leur banderole. Les manifestants pro-vax s'adressent à leurs adversaires les anti-vax, qui selon Alan, 24 ans, ont un peu trop confisqué la parole ces dernières semaines.
Il ne faut pas laisser les anti-vax seuls prendre la parole tous les week-ends. Leurs arguments, c'est souvent des mensonges qui se basent sur aucun fait scientifique.
Rétablir des vérités scientifiques, c'est aussi l'objectif de Gérard, 65 ans, peu habitué des manifs, mais qui cette fois a tenu à s'exprimer.
C'était quand même très utile de montrer que la majorité silencieuse dont je fais partie, pouvait exprimer le bon sens face à ce monde de fantasmes qu'on nous met en avant. 47 000 décès évités grâce au vaccin, ça c'est du bon sens que de l'accepter, quoi. Alors oui, c'est la science. Pourquoi cette suspicion? En fait, cette suspicion, c'est un vrai poison. La seule façon de se libérer, c'est de passer par le pass sanitaire et les vaccins. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour le dire plus haut, plus fort.
Pour Sophie, 26 ans, les anti-vax n'ont rien compris à la notion de liberté.
Ils confondent clairement avec égoïsme, et même égoïsme, je sais pas le bon mot, parce que c'est même pas la bonne décision à prendre pour eux-mêmes. Non, pour moi, c'est vraiment de la bêtise.
Un premier rassemblement en semaine, qui en appelle d'autres le week-end, promettent les organisateurs, histoire de mobiliser encore davantage. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
L'Union européenne veut refermer ses portes aux Américains à cause de la progression du variant Delta dans le pays. Les États membres souhaitent réimposer des restrictions pour les déplacements considérés comme non essentiels. Une mesure qui concerne aussi Israël, le Liban, la Macédoine, le Monténégro et le Kosovo.
Dans les Ardennes, une première journée de fouilles sans résultat pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.
Des recherches menées dans les environs de Charleville-Mézières où Michel Fourniret est soupçonné d'avoir enterré la fillette après son enlèvement et son meurtre en 2003. Son ex-épouse Monique Olivier, qui avait indiqué le lieu aux enquêteurs, doit être amenée sur place aujourd'hui pour guider la campagne de fouilles.
Les affiches ont été publiées hier sur les réseaux sociaux et elles seront dans toutes les classes dès jeudi, jour de rentrée scolaire. Le gouvernement a lancé sa campagne sur la laïcité à l'école.
Et une fois encore, un sujet de discorde, la campagne a suscité un torrent de critiques, notamment de la part de l'un des principaux syndicats enseignants, Virginie Riva.
Oui, sur l'une des affiches, ce petit garçon et cette petite fille accoudés à un rebord de piscine. Permettre à Sacha et Neissa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité. Puis, deux élèves qui rient en lisant un livre, permettre à Milan et Alia de rire des mêmes histoires. La campagne à peine dévoilée sur le web fait déjà polémique et pour le principal syndicat du secondaire, le SNES, le choix d'élèves avec des prénoms à connotation étrangère pose problème. C'est la question de la compatibilité de l'islam avec la République qui est selon eux sous-entendue. Sophie Vénétité, secrétaire générale du Fitness. En ce moment, sur la question de la laïcité, on a besoin de sérénité. Et finalement, cette campagne d'affichage, elle est une forme d'essentialisation, c'est-à-dire qu'elle renvoie les élèves à une de leurs caractéristiques, notamment leur prénom. Elle ne parle absolument pas de laïcité, puisqu'il n'est pas du tout fait mention de la religion. Et finalement, on a l'impression qu'elle joue sur des implicites, sur des représentations, pour laisser croire que finalement, la laïcité pourrait être mise en danger par certains élèves.
L'entourage du ministre explique que la campagne s'adresse avant tout aux élèves. Avec ce constat, la laïcité est pour eux un concept poussiéreux, voire excluant. L'idée était donc de partir de leur vécu personnel.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Relancer une ville à bout de souffle, c'est l'objectif du plan de l'exécutif pour Marseille. Marseille en grand, c'est même le nom de ce plan. Il sera présenté demain par Emmanuel Macron, qui restera jusqu'à vendredi dans la cité phocéenne. Le chef de l'État devrait annoncer une enveloppe d'au moins 1 milliard d'euros avec trois lignes directrices, l'école, le logement et les transports.
Emmanuel Macron, qui à l'approche de l'élection présidentielle est régulièrement attaqué par l'opposition sur sa politique migratoire, la riposte s'organise donc à 8000 km de Paris.
Europe 1 vous en parlait déjà hier soir, Gérald Darmanin en déplacement à Mayotte a annoncé un durcissement des conditions d'acquisition de la nationalité française sur l'île. En clair, seuls les enfants dont les parents sont en situation régulière depuis au moins un an pourront devenir français.
Avec cette mesure, le ministre de l'Intérieur veut freiner l'attractivité de l'île, territoire soumis à une forte pression migratoire, Nicolas Feldman.
Oui, département le plus pauvre de France. Mayotte, c'est aussi pour beaucoup de Comoriens la porte d'entrée de l'Europe, l'espoir d'une vie meilleure. À peine arrivés sur place, les ministres ont été rattrapés par cette tragique réalité migratoire. Samedi, ce sont une quinzaine de personnes qui ont péri au large des côtes en tentant de rejoindre l'île. Un drame de l'immigration, un de plus à Mayotte, où plus de la moitié des habitants sont étrangers. Durcir les conditions pour obtenir la nationalité française, c'est donc un moyen pour le gouvernement de dissuader les nouveaux candidats. Mais c'est loin d'être suffisant pour Estelle Youssoufa. Elle est présidente du collectif des citoyens de Mayotte.
Il faut mettre fin aux visas qui cantonnent tous les Comoriens à Mayotte. Et il faut avoir une opération de destruction des bidonvilles qui abritent les clandestins, avec des reconduites à la frontière qui sont des interdictions de territoire. Parce qu'actuellement, la loi ne fait que valider la longévité des clandestins qui s'installent à Mayotte.
Et pour les ministres, cette lutte contre l'immigration clandestine, elle se joue aussi en mer. De nouveaux navires intercepteurs vont être livrés à Mayotte et la surveillance aérienne renforcée.
Les explications de Nicolas Feldman pour Europe 1.
Et pour terminer ce journal, une information qui pourrait donner des idées aux parents dont les enfants sont accros aux jeux vidéo.
Oui, la Chine va interdire aux mineurs de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux sur Internet. Les enfants ne pourront plus jouer qu'une heure par jour et attention, uniquement les vendredis, samedis et dimanches. Et pour éviter la triche, ils ont pensé à tout. Une pièce d'identité sera demandée pour se connecter aux jeux en ligne.
Ça ne rigole pas. Merci beaucoup Romain Hoquet pour ce journal.
Et on passe au sport sur Europe 1.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange, et c'est la dernière ligne droite pour le marché des transferts. Le mercato ferme ce soir à minuit.
Oui, et depuis une semaine, un nom est sur toutes les lèvres, Kylian Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain est courtisé par le Real Madrid, qui a déjà fait deux offres refusées. Les négociations sont au point mort ce matin, sauf retournement de situation. L'attaquant français honorera sa dernière année de contrat pour le club de la capitale. Pour se consoler, le Real devrait s'offrir un autre international français. Le rennais Eduardo Camavinga pourrait s'engager aujourd'hui avec les Merengues, montant de l'opération 30 millions d'euros.
Les Bleus, justement, qui se sont réunis hier à Clairefontaine.
Oui, premier rassemblement depuis l'échec à l'Euro. Les Bleus comptent sur les qualifications à la Coupe du Monde 2022 pour refaire le plein de confiance, mais aussi pour tester de nouveaux joueurs à l'image d'Aurélien Tchouaméni, le Monégasque qui compte bien s'inspirer d'un de ses glorieux aînés. Écoutez.
J'ai pu avoir le numéro de Patrick Vieira. Étant donné que j'ai eu l'opportunité de jouer contre son équipe avec Nice quand il était coach, je me suis dit que comme c'est une référence au poste auquel je joue, c'était peut-être important d'avoir quelques conseils qu'il pouvait me donner. Donc j'ai pu échanger avec lui. Il a pu me donner quelques conseils et je vais les suivre bien volontiers.
Premier match pour les joueurs de Didier Deschamps, hein, demain soir à Strasbourg contre la Bosnie-Herzégovine.
La France, Martin, continue de briller aux Jeux paralympiques de Tokyo.
Et oui, trois nouvelles médailles cette nuit, hein, les trois en cyclisme sur route lors des épreuves contre la montre. Loïc Vergnaud remporte l'argent, Florent Joigny le bronze et Alexandre Léauté, déjà double médaillé en or et en argent sur piste, complète sa collection avec le bronze lui aussi. À 20 ans, il a déjà remporté tous les métaux et pour les Bleus, ça fait déjà 31 médailles à 5 jours de la fin des épreuves.
Enfin, tennis, le Open a débuté hier.
Et c'est déjà dur pour les Français, hein. Défaite de Benoît Paire, Hugo Humbert ou encore Kristina Mladenovic dès ce premier tour. Ça passe en revanche pour Adrienne Manarino, vainqueur de son compatriote Pierre Herbert. Ça passe aussi pour Caroline Garcia et pour Adrien Rinderknecht, pardon. En ce moment sur le court, hein, Richard Gasquet bataille contre le numéro 1 mondial Daniil Medvedev et c'est compliqué pour le Français, hein, qui vient de perdre le premier set 6-4. Et puis pour finir, la belle ambiance du court Arthur Ashe qui s'est enflammé cette nuit, hein, pour le premier choc de cette US Open. Le numéro 3 mondial, le grec Stefanos Tsitsipas, est venu à bout du britannique Andy Murray en 5-7 et après 5 heures de jeu.
C'était le journal des sports, merci Martin Lange. 6h12 sur Europe 1, vous connaissez cet adage, Julien, j'en suis persuadé, les travaux, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine.
Oui, et cela n'a jamais été aussi vrai. Ce n'est pas la faute de votre artisan ou de vos ouvriers, non. La raison, c'est la pénurie de matériaux de construction, bois, acier, plâtre. Les entreprises du bâtiment ont bien du mal à s'en procurer. Du coup, les prix explosent, les devis aussi. On en parle dans un instant avec le président de la Fédération française du bâtiment. Restez avec nous sur Europe 1.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h14, bon réveil, merci de choisir Europe 1, la matinale se poursuit. Et avec ce constat, valable depuis plusieurs mois, qui empoisonne, faut bien le dire, la vie de bon nombre d'entre nous, les chantiers prennent du retard. Alors la faute en grande partie à la pénurie de matériaux de construction et à la flambée de leurs prix. Pour en parler, Julien, vous recevez Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment.
Bonjour Olivier Salleron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Cette pénurie de matériaux de construction, c'est une réalité depuis le début de l'année, sauf qu'elle semble s'aggraver de semaine en semaine. Comment l'expliquez-vous ?
Bah écoutez, on alerte un peu tout le monde, dont nos clients, dont le gouvernement, depuis maintenant plus de 6 mois, d'une pénurie éventuelle. Malheureusement, ce que l'on voit à cette rentrée, c'est que suite à une interrogation de nos adhérents, 15% de nos adhérents se sont trouvés confrontés à une pénurie ou un manque de délai de chantier. C'est-à-dire, ils ont dû se réorganiser ou se débrouiller pour trouver d'autres chantiers et donc pouvoir travailler correctement.
Ça veut dire que certains chantiers sont à l'arrêt au moment où l'on se parle ?
Il peut y en avoir. Alors c'est la rentrée, hein, donc toutes les entreprises ont vraiment remis le corps à l'ouvrage là dès lundi. Mais aujourd'hui, oui, notre grande anxiété, c'est encore de manquer de certains matériaux parce que c'est la réalité. Oui, la réalité arrive malgré le fait qu'on ait un carnet de commandes et qu'il faut le dire, le bâtiment va très bien. C'est très bien relevé et a fait une relance réussie grâce à beaucoup de mesures. Hein, mais aujourd'hui, ça serait vraiment dommage d'arrêter et de pouvoir ne pas continuer cette progression due à une pénurie mondiale de certains matériaux.
Alors justement, quand on parle de matériaux, on parle de plâtre, de bois, de verre et même de tuiles, de presque tout ce dont vous avez besoin pour travailler en fait.
Oui, malheureusement, une grande majorité, alors vous l'avez dit, le bois c'est un problème structurel, une filière mondiale, un dérèglement mondial, mais aussi l'acier de structure pour construire des bâtiments de grande surface, mais aussi les peintures, mais aussi le PVC, donc tout ce qui est produit pétrolier. Il y a plusieurs explications, des règlements mondiaux, oui, une demande forte, une relance partout sur tous les continents, sur la France aussi, au niveau européen. Et donc, oui, un dérèglement qui, aujourd'hui, nous amène à quelquefois stopper certains chantiers ou en tout cas manquer de matériel.
Avec pour conséquence, j'imagine, un impact financier sur les entreprises que vous représentez. Est-ce que vous craignez des faillites, des défaillances si cette situation venait encore à perdurer ?
Oui, évidemment, la rentabilité des entreprises du bâtiment, qui est aux alentours de 2%, risque de prendre un coup sévère avant la fin de l'année. Donc oui, il faut des améliorations, oui, il faut de l'indexation des prix. Il faut aussi le gel des pénalités de retard en cas de dépassement de chantier qui n'est pas dû au fait des entreprises. Alors on l'a obtenu de la part du gouvernement et au on y travaille avec eux beaucoup sur les marchés publics. Maintenant, on le voudrait un peu plus sur les marchés privés. Donc oui, il y a
ça n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Solutions. Non, sur les marchés privés, non. Sur l'indexation, non. Et puis le pire du pire, c'est-à-dire l'effet supplémentaire, ça serait d'arrêter des chantiers faute de matériaux et donc d'avoir une prise en charge de l'activité partielle de nos salariés, pas d'une façon préférentielle. Et donc ça pourrait vraiment mettre un ou deux genoux à terre de certaines entreprises.
Alors vous l'avez dit, comme dans toute pénurie, les prix augmentent. J'imagine que cette hausse des matières premières, elle est désormais répercutée sur les devis.
Eh bien oui, ça serait quand même dramatique et en tout cas suicidaire si nos artisans et entrepreneurs ne répercutaient pas ces prix. Donc oui, dans un prix final, il y a le prix de la main-d'œuvre, il y a le prix des charges fixes, etc., etc. Mais on peut dire que oui, et certaines fois, c'est 10 à 15% au niveau des index, donc une augmentation des prix sur les devis à venir, en tout cas les devis actuels. On espère que cette tendance ne soit que structurelle sur beaucoup de produits. Sur le bois, ça va être difficile. Mais sur les autres, que ça puisse s'atténuer avant la fin de l'année.
Alors le plus rageant, vous l'avez dit, c'est que la demande, elle est là. Les mises en chantier ont bondi en début d'année.
Oui, le bâtiment français a réussi sa reprise, a réussi sa relance. On a beaucoup travaillé et plutôt bien travaillé avec le gouvernement, Bruno Le Maire, Emmanuel Wargon, avec Alain Griset et le Premier ministre, évidemment. Et donc les carnets de commandes sont plutôt bons, entre 8 et 10 mois, plus nos artisans aussi du travail. Donc voilà, ce qui serait fortement dommageable, tout simplement pour le PIB français et l'économie française, c'est que le bâtiment soit obligé de freiner par manque de matériaux. Donc nous y travaillons avec le médiateur de la République aussi, qui a été mis à disposition par Bruno Le Maire. On arrive à avoir des résultats en amont, au cas par cas, et là-dessus je crois que c'est très favorable.
Et l'arrêt du fonds de solidarité fin septembre qui a été annoncé hier, vous en pensez quoi ?
Alors pour nos entreprises, on était beaucoup moins touchés puisque bon, le bâtiment s'est arrêté maintenant il y a un an et demi, quelques semaines, et a repris très très vite. Donc très peu on en bénéficié parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt brutal, en tout cas en 2021, hein, en 2020 oui, de quelques semaines. Donc là-dessus, je crois que par rapport à ce qui s'est dit hier de la part du gouvernement, ça sera au cas par cas, et puis les entreprises qui en auront besoin pourront en bénéficier encore. Pour nous, je le répète, si l'activité partielle devait être effective pour les entreprises qui stopperaient des chantiers faute de matériaux, oui, on aurait peut-être besoin de rentrer dans ce système-là. Aujourd'hui, nous n'en faisons pas partie. Et donc, ce qui serait dommageable, c'est de prendre à notre charge, évidemment, l'ensemble du salaire de nos salariés.
Olivier Salleron, est-ce que, au regard de cette situation, vous diriez ce matin aux particuliers, entrepreneurs ou collectivités qui nous écoutent d'attendre quelques mois avant de lancer des travaux ?
Mais écoutez, le problème, c'est que faire l'économie fiction, c'est très difficile, hein. Vous savez, on pensait que le pic allait être atteint, au mois de juin. Finalement, ce ne fut pas le cas. Donc, on n'est pas sûr qu'il y ait une baisse de prix de matériaux. En tout cas, revenir à un certain niveau de prix sur certains types de matériaux, on n'y croit pas. Donc, c'est une évolution, mondiale, sur aussi des matériaux qui sont fortement utilisés et demandés partout sur la planète. Donc, là-dessus, non, je dirais pas de freiner, évidemment. Mais, je pense qu'on va retourner à l'équilibre dans quelques mois, j'espère quelques semaines pour certains matériaux. Donc les prix vont recommencer à baisser, nous l'espérons fortement, évidemment. Donc non, surtout ne pas baisser l'investissement au niveau de l'habitat. Et je crois que nos concitoyens veulent aussi améliorer leur habitat et avoir des logements dignes. Donc c'est ce que nous demandons aussi.
Merci beaucoup Olivier Salleron d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Très bonne journée et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
6h21 sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec le journal permanent d'Élise Dangean.
Les États-Unis ont achevé leur retrait d'Afghanistan cette nuit, mettant fin à leur plus longue guerre qui aura duré 20 ans. Ils laissent le pays aux mains des talibans qui se félicitent de cette victoire. Cette victoire est la nôtre à tous, déclare l'un de ses porte-paroles. Électricité coupée, rues inondées, toits arrachés. Les habitants de Louisiane constatent l'ampleur des dégâts causés par le passage de l'ouragan Ida. Catastrophique, dit son gouverneur. Enfin, l'Union européenne annonce le retour des restrictions aux voyages non essentiels vers son territoire. Ça concerne 5 pays, dont les États-Unis et Israël.
Place à la musique et à votre partition, Omblin. On a appris sa disparition au beau milieu de l'été. Dusty Hill était le légendaire bassiste et chanteur de ZZ Top. Le trio a secoué dès la fin des années 60 le petit monde du rock sudiste.
Naturellement, Julien, lorsqu'on parle de ZZ Top, on a l'image de cette barbe vertigineuse de Dusty Hill et de l'autre barbu de la bande, le guitariste Billy Gibbons. Le batteur Frank Beard se contente de quelques poils au menton. Il y a aussi les lunettes noires, les guitares qui tournent autour de la ceinture et le bras qui fait la moulinette. ZZ Top, c'est avant tout un jeu de guitare précis, des riffs blues furieux et la liberté d'un répertoire qui s'est affranchi de toute complaisance.
L'histoire de cet inaltérable trio commence à la fin des années 60.
Où ça ? À Houston ?
Bah oui.
Au Texas, bien sûr. Ils ne font pas alors partie des mêmes groupes, mais ils se croisent régulièrement dans les clubs texans moites et enfumés. Ils jouent un boogie rock à la sauce Tex-Mex pendant qu'on sert sur les tables un chili con carne relevé. Rapidement, Dusty Hill et Frank Beard rejoignent Billy Gibbons sur scène.
Et ce nom alors, ZZ Top, ça vient d'où ?
Ça, c'est la question que toutes les générations de fans se sont posées. Des théories ont circulé. ZZ Top est un hommage à la légende du blues B.B. King. ZZ King est devenu ZZ Top.
Alors chez eux, ça fonctionne tout de suite, mais la musique de ZZ Top a bien du mal à traverser les frontières du Texas.
Même les maisons de disques américaines ne semblent pas vraiment s'intéresser aux cowboys. Contre toute attente, c'est un label britannique qui accepte de les signer. ZZ Top se retrouve en première partie du duo Ike et Tina Turner et on raconte que les Turner sont allés les voir en coulisses pour les féliciter. C'est super les gars, musicalement c'est génial, mais vous devez vraiment vous trouver d'autres fringues.
Alors sans changer de look, pour autant ils patientent jusqu'en 73 pour enfin être entendus partout dans le monde.
La Grange et l'album Tres Hombres propulsent les trois Texans au sommet des charts.
Arrivent les années 80 avec son lot de synthétiseurs et de boîtes à rythme et ZZ Top souhaite être en phase avec ce qui marche.
Et ça passe par des effets sonores électroniques sophistiqués. Les puristes crient au scandale. Mais voilà, le résultat est là. L'album Eliminator en 1983 se vend à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis. Avec ses jolies filles et ses belles bagnoles dans les clips, les trois de ZZ Top deviennent les icônes de la chaîne musicale MTV. Cette pochette du disque Eliminator la célèbre Ford 3 Window de 1933. Elle est toute rouge. En fait, c'est les phares qu'on voit essentiellement sur cette pochette. Sharp Dressed Man de ZZ Top qui a perdu cet été son bassiste Dusty Hill. Le groupe continue de monter sur scène et prépare actuellement un album.
Plus aucune raison donc de se raser. C'était la partition d'Omblin Roche. Restez avec nous. Dans un instant, votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin.
Il est 6h27 et c'est l'heure pour nous, Julien, de quitter ce studio, d'aller à la table du petit déjeuner, pas loin.
Oui, absolument.
Il paraît qu'il y a des pains au chocolat tout chaud.
Absolument. Bon. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin. Bah vous, ouais, voilà, un petit pain au chocolat, vous penserez à moi. J'en ai mangé un, ce sera le seul de la semaine. C'est vraiment une tentation terrible.
C'est terrible. Hein.
Ça colle la bouche un peu avant studio, je ne suis pas sûr que ce soit un bon...
Oui, c'est ce que je me disais aussi, mais bon, un petit verre d'eau. Merci à tous les deux.
Merci. À demain,
vous pouvez vous reposer. À demain 5h.